100% d'Europe, Catherine Potet, Nathalie Amar.
Bonjour Catherine.
Bonjour Nathalie.
Nous parlerons notamment des distributeurs automatiques bilingues anglais-cockney.
C'est une expérience qui est tentée dans l'East End à Londres et qui donne lieu à des échanges désopilants. Dans quelques instants, le reportage de notre correspondante Muriel Delcroix.
Où en est la parité homme-femme dans les grandes entreprises?
En Norvège, l'établissement de quotas a permis aux femmes de faire leur place au sein des conseils d'administration. En Allemagne, en revanche, les entreprises sont opposées à toute réglementation en matière de parité.
Au sommaire également, ces tableaux qui montrent des hommes nus et bien en chair.
Les œuvres d'Herman Gordijn sont exposées à Zwolle, aux Pays-Bas.
Et puis la page musicale d'Accent d'Europe.
Aujourd'hui, Vincent Teval nous fait découvrir Rotfront, un collectif basé à Berlin qui rassemble un Ukrainien, un Hongrois et des Allemands, entre autres.
Nothing flatters people more than when a foreigner tries to speak their language. Remember, knowing the language is the best way of knowing the country and enjoying it more.
C'est une première. À Londres, quelques distributeurs automatiques offrent aux usagers la possibilité de choisir le cockney, l'argot de la classe ouvrière londonienne, lors de leurs transactions bancaires.
Ces distributeurs de billets sont à l'essai dans le quartier de l'East End, l'est de la capitale britannique, auquel est le plus souvent associé le cockney. Au programme, petites coupures, humour et cafouillage. À Londres, le reportage de Muriel Delcroix.
Okay, English or cockney.
Bon, anglais ou cockney? On va essayer en cockney. Authentification de votre pelle à tarte, c'est-à-dire votre carte. Veuillez entrer votre Huckleberry Finn, ça c'est pour le code.
Le distributeur que s'amuse à déchiffrer ce londonien est l'un des 5 guichets qui, depuis quelques semaines, dispense des billets de banque en offrant comme autre choix de langue le cockney, ou plus exactement le rhyming slang, qui est cette particularité qu'ont les londoniens des classes populaires de l'est de Londres de parler un drôle d'argot, extrêmement imagé et à base de rimes. L'idée est de faire correspondre à chaque mot une paire de mots avec laquelle il rime, ce qui donne, dans le cas de ces guichets automatiques, voulez-vous some sausage and mash pour cash, ce qui reviendrait à demander si on s'amusait à le reproduire en argot français, voulez-vous des myrtilles et groseilles pour de l'oseille? Et c'est à la société Bank Machine que revient la palme de l'originalité pour cette initiative. Son directeur général, Ron Del Nivo, n'est d'ailleurs pas peu fier d'avoir trouvé un moyen d'affronter la récession avec humour.
Le secteur financier va très mal depuis quelques années et nous pensions qu'il était temps de retrouver un peu le sourire, de s'amuser plutôt que de se lamenter. Et puis aussi, nous pensons que les gens en ont marre de l'uniformité. Ils aiment ce qui est différent, ce qui est proche d'eux, de leur quartier. Et nous avons pensé que nous pouvions répondre à cette attente dans l'East End de Londres en introduisant le cockney dans les distributeurs de billets.
Bien que dans la pratique, l'expérience peut s'avérer assez déconcertante.
Ouh là là, ça me gâche la vie là. Je pense que l'anglais est assez difficile comme ça, et même si je suis du pays.
Charlie Sheen. Ok, je suis vraiment perdu là. Oh non. Bon, j'ai été trop long. Je voudrais plus de temps. Je veux de la saucisse purée, donc du blé, je crois, et puis un reçu. C'est assez compliqué en fait, mais c'est marrant. Mais bon, quand on essaie juste de sortir de l'argent, c'est plus facile en anglais.
Il faut dire qu'à Spitalfields Market, l'un des endroits stratégiques choisis par Bank Machine pour placer ses distributeurs, la population est désormais très mixte. Et plus que d'authentiques cockneys, on y croise plus facilement des jeunes en goguette, comme les deux étudiants quelque peu décontenancés qu'on vient d'entendre, ou des membres de la communauté indo-pakistanaise du quartier adjacent de Brick Lane. Qu'à cela ne tienne, rétorque Ron Del Nivo, lui-même écossais de toute façon, l'important, au-delà de la plaisanterie, c'est de maintenir la tradition cockney, mais aussi d'autres dialectes, comme le Scars de Liverpool, le Geordie de Newcastle ou encore le Scots parlé en Écosse.
Les cockney pensent que c'est fantastique parce qu'ils adorent la spécificité de leur dialecte et veulent le maintenir. Le problème avec ce genre de dialecte, c'est qu'ils deviennent des langues dont les gens parlent au passé et s'ils ne sont plus parlés dans la vie de tous les jours, ils disparaissent. Nous pensons donc qu'en les utilisant dans les distributeurs dont tout le monde se sert, nous contribuons un peu à garder en vie ce dialecte.
Et c'est vrai qu'en s'enfonçant un peu plus à l'est dans le quartier d'Acne où se trouve un autre de ces guichets, les cockneys pure souche sont effectivement ravis de voir leur argot mis ainsi en vedette. Comme Eddie, la quarantaine, qui après une belle démonstration de rhyming slang totalement incompréhensible pour des oreilles françaises, se lance dans une défense de sa langue imparable.
Et je suis né dans l'East End, si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi on devrait perdre la langue de l'East End, hein? C'est la langue dans laquelle on nous a élevés et à laquelle on est attaché, vous voyez. Donc moi je dis, il faut s'y accrocher, enfin, c'est ce que je pense, mais chacun pense ce qu'il veut, hein.
Here we go. Sausage and mash. No problem.
C'était le reportage à Londres de notre correspondante Muriel Delcroix. La parité homme-femme, c'est une belle intention dans les grandes entreprises européennes, mais on est encore très loin du compte. Nous le verrons dans quelques instants avec l'Allemagne.
Mais avant cela, nous nous arrêtons en Norvège, qui est le premier pays au monde à avoir adopté une loi qui oblige les conseils d'administration des grandes entreprises à recruter des femmes. Rien d'étonnant lorsqu'on sait que le royaume scandinave se targue, à juste titre d'ailleurs, d'être l'un des pays les plus égalitaires du monde. Mais si les femmes ont depuis longtemps fait leur place en politique, elles avaient quand même du mal à accéder aux postes à responsabilité dans les grandes entreprises. Et c'est l'instauration de quotas au sein des conseils d'administration qui leur a permis d'occuper les plus hautes responsabilités, comme nous l'explique Anne-Françoise Hiver.
40% des femmes au sein des conseils d'administration des entreprises publiques et des sociétés anonymes cotées en bourse, c'est le quota que s'est fixé la Norvège en décembre 2003. À l'origine de l'initiative, un homme, conservateur de surcroît, ministre de l'Industrie, Ansgar Gabrielsson, tape un grand coup sur la table en février 2002. Il annonce qu'il est prêt à légiférer si les grandes entreprises norvégiennes continuent d'écarter les femmes de leur conseil d'administration. Une initiative qui prend tout le monde de court, y compris dans les rangs du gouvernement libéral. Le patronat crie au scandale et dénonce une ingérence inacceptable de l'État dans les affaires des entreprises. En décembre 2003, cependant, un texte de loi est soumis aux députés. Il est adopté à la majorité. Dans un premier temps, seules les compagnies publiques sont concernées. Les 500 sociétés anonymes ont un an et demi pour faire leurs preuves. Mais une fois la date passée, on est encore loin du compte. Si le 1er juillet 2005, 45% des membres des conseils d'administration des entreprises publiques sont bien des femmes, elles ne sont que 17% à siéger au conseil d'administration des sociétés anonymes. C'est mieux que deux ans plus tôt quand elles n'étaient que 7%, mais c'est encore insuffisant. Le gouvernement décide donc d'appliquer la loi. Les entreprises ont jusqu'au 1er janvier 2008 pour se mettre aux normes, ou bien elles risquent la dissolution. Le patronat, toujours opposé à la législation, donne l'exemple. Il met en place un programme Female Future destiné à former de potentielles administratrices. Un véritable succès. 3 ans plus tard, les Norvégiennes représentent 40% du personnel des conseils d'administration des sociétés anonymes. Aucune entreprise n'a été dissoute et tout le monde en Norvège s'accorde à dire que la loi est une réussite.
Et l'exemple de la Norvège, Catherine, fait rêver les Françaises. À peine 1 sur 10 ayant un siège dans le conseil d'administration d'une grande entreprise. Il fait aussi rêver les Allemandes qui, prenant exemple sur la Norvège, réclament l'instauration de quotas dans les instances de contrôle des entreprises.
Leurs revendications sont plus modestes puisqu'elles se contenteraient de quotas de femmes établis à 25%. Mais ce n'est pas gagné pour autant. Les entreprises allemandes étant opposées à toute réglementation dans ce domaine. Qui plus est, l'arrivée d'une alliance conservateurs-libéraux au gouvernement ne présage rien de bon pour les partisans de la parité, même si quelques femmes tirent leur épingle du jeu. Le reportage à Berlin de Sophie Grainerie.
Il y a moins d'un mois, Simone Bageltra, 40 ans, a décroché la présidence du conseil de surveillance du groupe Henkel. Certes, elle est l'arrière-arrière-petite-fille du fondateur de l'entreprise. Elle n'en est pas moins la première femme à accéder à ce poste de responsabilité en Allemagne. Dans leur ensemble, les conseils de surveillance, qui ont pour mission de contrôler les dirigeants d'une entreprise, ces conseils restent des organes très masculins. Voilà ce que déplore Jutta von Falkenhausen.
À première vue, la situation n'a pas l'air si tragique. Si l'on considère les 100 plus grandes entreprises allemandes, la part des femmes dans les conseils de surveillance atteint 12%. Mais ce résultat est dû à la particularité du droit allemand. Nos conseils de surveillance sont des organes paritaires entre employeurs et représentants du personnel. Or, les syndicats sont un peu plus progressistes, ils se font davantage représentés par des femmes. Par contre, si l'on ne considère que les représentants du patronat, là, la part des femmes tombe à 3,5%.
Jutta von Falkenhausen est avocate au sein du bureau berlinois d'un grand cabinet américain. Elle est aussi l'une des fondatrices de l'association FIDAR, une association qui milite pour une plus grande représentativité des femmes au sein des conseils de surveillance. Pour atteindre ce but, FIDAR exige l'introduction d'un quota de 25% de femmes.
Ça n'a pas été facile d'en arriver à cette conclusion, parce que toutes nous sommes issues du monde de l'entreprise et que pendant longtemps, nous avons cru qu'en étant bosseuses et performantes, les postes de responsabilité viendraient automatiquement. Or, au bout de 15-20 ans, on s'aperçoit que les femmes en sont encore exclues. Donc, on pense que sans l'introduction de quotas, rien ne changera.
Sans surprise, les entreprises allemandes rejettent toute mesure contraignante. Selon elles, le faible pourcentage de femmes dans les échelons supérieurs des entreprises s'explique tout autrement. Anne Zimmermann du DIK, la Chambre de commerce et d'industrie.
Le DIHK est très sceptique sur l'introduction de quotas féminins parce qu'il ne s'attaque pas aux véritables obstacles de la promotion des femmes dans l'entreprise. Pour lever ces obstacles, il faut faciliter davantage vie professionnelle et vie familiale. Et puis aussi, il faut encourager les femmes à se tourner davantage vers les métiers qui leur permettent d'atteindre des postes élevés.
Les opposants aux quotas pointent également la difficulté qu'auraient les entreprises à trouver suffisamment de femmes qualifiées pour exercer au sein des conseils de surveillance, notamment dans les secteurs d'activité très techniques. Alors pour parer à ces critiques, Petra Leden-Decker, la présidente de la Fédération des femmes chefs d'entreprise, a trouvé un antidote.
On est en train de constituer une banque de données. Elle regroupera les biographies de femmes qui ont les compétences requises pour exercer une fonction au sein d'un conseil de surveillance. Nous avons déjà une cinquantaine de noms. À terme, nous n'aurons aucun problème pour répondre aux besoins des entreprises.
Reste que les deux partis qui vont former le prochain gouvernement, la CDU conservatrice et le Parti libéral, n'ont pas montré beaucoup d'enthousiasme jusqu'à présent pour le combat des associations féministes. Mais Jutta von Falkenhausen de l'association FIDAR ne s'avoue pas vaincue.
La discussion n'est pas close, notamment parce que ces derniers temps, avec la faillite des banques, avec les scandales d'espionnage que nous avons eus en Allemagne, nous avons bien vu que ces conseils de surveillance n'ont pas rempli leur fonction. Donc il faut que quelque chose change. Et puis j'espère bien aussi que lors de son second mandat, Angela Merkel va s'occuper un peu plus des problèmes des femmes.
En attendant, quelques entreprises se sont engagées volontairement dans des programmes de promotion. Ainsi, le groupe automobile Daimler promet de confier 20% des postes de responsabilité à des femmes d'ici 2020. Pour l'association FIDAR, un objectif bien trop lointain.
Oh, je suis impatient pour la chose.
Sortir.
Une fois n'est pas coutume, Catherine, les corps charnus et dénudés exposés au musée des Fondacies de Zwolle aux Pays-Bas ne sont pas des corps de femmes.
Et oui, peut-être peut-on parler d'une certaine parité homme-femme en matière artistique. En tout cas, les tableaux signés d'Hermann Gordain mettent en scène des hommes aux formes pulpeuses et qui plus est dans des positions qui prêtent à sourire. Notre correspondant Didier Burg a visité cette exposition.
Jusqu'à présent surtout connu pour ses nus féminins et ses portraits officiels hors du commun, Hermann Gordain surprend aujourd'hui son public. Le musée de Fondatie aux Pays-Bas a en effet choisi de présenter l'ensemble de ses tableaux de nus masculins. Ventre rond, fesses charnues, crâne dégarni, ces hommes ayant largement dépassé la cinquantaine sont loin de l'esthétique en vogue dans les salles de sport à la mode. Mais ils ont de l'allure à la manière des femmes voluptueuses que peignait Rubens. L'une des œuvres d'ailleurs, dénommée « Les Trois Grâces », est une parodie du célèbre tableau du peintre flamand. Dans une position gracile, trois hommes de différents âges s'entrelacent comme de vieux camarades. À voir aussi cette leçon d'autodérision avec cette toile d'un danseur de flamenco affublé d'un string. Ses fesses, grosses comme des bapmondes, sont au premier plan du tableau. Son ventre rebondi se reflète dans un miroir où il s'admire avec un sourire moqueur. Il y a aussi quelque chose de Magritte dans cet artiste. Par exemple, son obsession des cochons qui le pousse à représenter cet animal aux endroits les plus incongrus de ses toiles. Aucun exhibitionnisme pourtant dans les œuvres de ce peintre néerlandais, aujourd'hui âgé de 77 ans. Son œuvre relève avant tout d'un style réaliste lyrique. Il est aussi l'auteur de portraits hors normes, comme celui de la reine Béatrix des Pays-Bas. Son esprit créatif l'a aussi amené à réaliser des décors et des costumes pour des compagnies théâtrales. L'exposition Hermann Gordein est à voir jusqu'en janvier au musée de Fondacci de Zwolle.
Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité.
Sit back, relax, and close your eyes.
Et oui, grâce à ce disque et grâce à Vincent Théval, nous parlons musique comme tous les vendredis. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vous nous présentez aujourd'hui le groupe Rotfront.
Oui, Rotfront, c'est un collectif basé à Berlin avec à sa tête deux musiciens issus de l'immigration. Yuri Gorzy, qui vient d'Ukraine et est connu en Allemagne pour avoir créé les soirées Russen Disco. Et Simon Wahorn, qui est hongrois. Les deux se rencontrent en 2003 et fondent le Emigrantski Ragamuffin Collective Rotfront, qui devient rapidement l'un des animateurs les plus populaires des nuits berlinoises, avec un mélange des genres particulièrement festifs, rock, polka, hip-hop, klezmer, ska, ragamuffin, tout est passé à la moulinette du collectif, qui peut jouer à 5, à 10 ou à 15 sur scène, selon les rencontres et les moments. Sur disque, le groupe réunit donc un Ukrainien, un Hongrois, mais aussi un Américain, un Australien et 5 Allemands, pour un mélange des cultures, des langues et des influences plutôt efficaces. Leur premier album est sorti voilà quelques semaines et se nomme Emigrantski Ragamuffin.
Клуб открыт всю ночь, и это очень хорошо. Теперь нам некуда спешить, давай зайдем сюда. И наплевать, что завтра не суббота, а среда.
Komm, ich zeig dir Berlin, du verbringst am besten Tag in Berlin. Wir strömen im Pampe mit dem Rad durch Berlin. Seit Jahren verdiene ich keine müde Mark in Berlin. Doch ich mag mehr Berlin, auch wenn ich gar nichts verdiene. Jeden Tag schreibe ich Part für Berlin. Auf Partys bring ich Beute und mit Schlaf in Berlin. Mit Rotfront bin ich am Start in Berlin. Ich bin hier geboren und ich will mein Grab in Berlin.
Qui est en tournée actuellement?
Oui, en Europe, dans les semaines qui viennent. Rotfront visitera Berlin, bien sûr, les 6 et 14 novembre, ou encore Amsterdam le 28. Toutes les dates sur leur site internet, rotfront.com.
Merci Vincent Théval, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'était Accent d'Europe, une émission réalisée avec le soutien du programme Euranet. À la réalisation, Françoise Grelot, Jean Dufa assurait la mise en onde. À lundi pour un nouveau numéro d'Accent d'Europe. Thank you.